orientale. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est l'île de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'être une de maîtrise des vents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. La maladie à virus Ebola reste toujours contenue dans les secteurs des Dira, en territoire des Boyende, dans la province de l'Équateur. Des 65 cas de malades reçus depuis le début du mois d'août dernier, 35 décès sont enregistrés. Rappelons que c'est pour la 7e fois que la RDC connaît le déclenchement de cette épidémie depuis 1976. Comment l'expérience de la RDC dans la lutte contre cette maladie peut-elle profiter à d'autres pays? Que faire pour rendre efficace la lutte contre Ebola dans le pays? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission réalisée par Julie César. Alain Goya sur la mise en onde et Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapis.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
La lutte contre l'épidémie d'Ebola au centre de notre échange de ces jours tout à l'heure avec le ministre de la Santé. Qu'est-ce faut-il faire pour que l'expérience de la RDC qui connaît depuis cette fois le déclenchement de cette épidémie puisse profiter à d'autres pays? Comment la lutte même elle peut être plus efficace au pays? Nous en parlons avec vous. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir dans cette émission. Nous avons Fils qui est à Kananga, au Kasaï occidental, et Maître Papi. Kassema ici à Kinshasa. On commence avec vous, fils. Vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute. Pour vous, comment on peut rendre la lutte contre Ebola plus efficace dans notre pays?
Pour moi, et pour connaître une lutte efficace contre l'épidémie contre Ebola, il faut d'abord commencer à demander à la population de se prendre d'abord en charge. Ce n'est pas à tout moment d'espérer à l'État, parce que nous, la population, nous croyons que il faut que l'État fasse tout pour nous. Mais à quelque chose, il faut d'abord nous prendre en charge avec ceux qui luttent contre l'épidémie en question. Maintenant, je peux soulever aussi quelques points que notre État peut mettre en place. Premièrement, que notre État peut d'abord mettre en place un système de surveillance ou de mesures préventives pour lutter contre ce virus. Et aussi, mettre l'éducation des femmes dans ce domaine, qu'elles soient formelles, les femmes-là qui sont formelles, non formelles ou informelles, doit être une priorité pour lutter efficacement contre la transmission du virus. Et aussi, il faut barrer donc la route avec l'arsenal des médicaments. Et je peux aussi soulever un autre point pour terminer.
Oui.
Je lance aussi l'appel aux États membres de garder l'esprit d'engagement pris dans la déclaration politique CHSIDA en 2006, de promouvoir un environnement juridique et social qui facilite l'accès au dépistage.
Oui, mais là, s'il vous plaît, là, je crois que vous avez d'abord mélangé deux choses. À la fois, vous avez commencé par parler d'Ebola et vous êtes tombé dans le virus à VIH. Malheureusement, c'est ça, pas le centre de notre échange aujourd'hui. Nous parlons plutôt de l'épidémie à virus Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si je reviens à votre première phrase, vous avez dit il faudrait un système de surveillance, mais il faut aussi une prise de conscience pour considérer que il ne faut pas seulement attendre tout de l'État, mais la population peut aussi se conscientiser dans la lutte contre la propagation de ces virus. Merci beaucoup, fils, vous êtes à Kananga, mais les cas qui touchent au VIH-SIDA, ça peut faire l'objet d'une autre émission prochaine. Merci beaucoup.
Oui, papi, vous êtes
oui, fils, on vous écoute rapidement.
Vous avez touché le cas des VIH, juste lancer donc l'appel aux États membres. Vous avez pris l'engagement contre les VIH Il faut aussi prendre cet engagement contre la fièvre d'Ebola. C'est pas juste des cas-là.
Ah voilà, c'est merci. Votre souci. Voilà, votre souci, c'est de voir les États membres, par exemple l'Union africaine, comme on a vu avec la rencontre extraordinaire qui s'est tenue en début de semaine. Vous souhaitez que, du même qu'on a fait avec le virus VIH, il serait mieux aussi qu'on puisse voir avec Ebola que les États membres, le pouvoir, le décideur politique, prennent une déclaration d'engagement pour voir comment investir dans la lutte contre cette maladie. Merci beaucoup, fils, pour cette précision. Papy, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, papy. Comment rendre la lutte plus efficace?
Ok, merci une fois de plus pour la parole. D'entrée de jeu, je me demande si nos ancêtres avaient aussi connu le cas de l'épidémie Ebola. Sinon, pourquoi alors qu'ils vivaient sur la même terre avec les mêmes forêts et animaux que nous avons aujourd'hui? En fait, la lutte contre l'épidémie Ebola doit se faire selon qu'on veut prévenir sa reprise ou selon qu'on veut lutter contre sa propagation messagère. Alors, pour prévenir sa reprise, à mon avis, il faut d'abord bien identifier ses causes. Et comme les études ont démontré que cette épidémie est d'origine animale, la solution idéale est de sensibiliser adéquatement la population et d'approfondir les recherches, car il se peut qu'à part la chauve-souris, il peut y avoir d'autres animaux qui sont à l'origine de cette épidémie. En plus, amener la population de déménager s'il y a moyen de là où ils sont plus exposés à cette épidémie. Alors, quant à la lutte contre sa propagation, un accent doit être mis sur la prise en charge du personnel de santé et de ces gens qui sont déjà affectés de cette épidémie. Car ils doivent recevoir une nourriture correspondant le plus possible à leur nourriture habituelle. Et cette nourriture doit avoir une valeur suffisante pour les maintenir en parfaite condition physique. Car il est vraiment inquiétant de voir ces gens quitter leur vie isolement pour aller chercher de quoi mettre sous la dent. Il faut en outre, monsieur le journaliste, que l'on puisse savoir la façon dont on doit enterrer ces cadavres, donc les gens qui sont morts de l'épidémie. Car selon les experts, le virus Ebola devient plus puissant lorsque la personne est déjà morte. Enfin, on ne peut pas négliger les mesures qu'on a prises pour maîtriser cette épidémie antérieure. Et les gens qui ont fait que la dite épidémie puisse prendre, c'est parce que nous pensons que toutes les mesures qui ont été prises la fois passée ne sont pas prises en compte maintenant. Et les gens qui ont participé à la lutte contre les épidémies antérieures, il y a des failles sous. Merci.
Merci beaucoup, papy. Votre souci, c'est qu'il faut d'abord partir de l'identification des causes, associer la population dans la sensibilisation, et vous souhaitez même s'il y a moyen d'encadrer les populations qui sont exposées dans les milieux où l'épidémie peut se déclencher, si c'est possible de pouvoir les encadrer, les relocaliser, mais vous souhaitez aussi que ceux qui sont isolés soient pris en charge correctement, y compris les agents de santé, pour éviter par exemple que ceux qui sont dans les hôpitaux n'aillent se débrouiller dans les environs pour trouver à manger. Merci beaucoup, papy. Maître Ekanik Libou, vous gardez la ligne. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, associé à ces débats monsieur le ministre de la Santé, docteur Félix Kamangé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant peut-être qu'on revienne aux préoccupations des auditeurs dans cette émission, revenons d'abord aux faits souterrains aujourd'hui. Où en sommes-nous par rapport au cas, au décès et à la réponse d'une manière brève par rapport à cette épidémie?
Merci beaucoup. Je pense que vous avez annoncé les résultats tout à l'heure. Nous sommes à 62 cas. Sur les 62 cas, il y a 14 cas confirmés par le laboratoire. Il y a 22 cas suspects et 26 cas probable. Depuis que l'épidémie a commencé le 11 août 2014, nous sommes à un nombre cumulé de 35 décès, dont 7 personnels de santé, et à ce jour, on est en train de suivre 386 personnes contact. Mais j'aimerais rappeler également que le laboratoire mobile qui avait été promis dans les mesures prises par le gouvernement est fonctionnel depuis hier. et je pense déjà aujourd'hui, avant la fin de la journée, les statistiques vont être bousculées sérieusement, parce que hier déjà il y a eu au moins 18 prélèvements qui ont été effectués et 20 prélèvements faits sur 18 patients. Donc aujourd'hui, ce matin, nous aurons les résultats, donc ça va perturber ou ça va bousculer les statistiques. Comme je l'avais dit, les statistiques sont mobiles en ce qui concerne Ebola, parce que bientôt les cas probables vont diminuer sensiblement. Dès qu'on a des cas suspects, directement on fait le laboratoire. Les résultats sont donnés par l'Okolia. Le Kinshasa ne fera que le contrôle de qualité. Donc ça va accélérer beaucoup de choses. Et deuxièmement, le centre de traitement Ebola est fonctionnel depuis ce lundi. Donc le centre qui a été construit par MSF. J'aimerais en profiter pour donner une information par rapport à la rumeur qui court, parce que j'ai suivi sur certains médias, on parle des malades qui n'ont pas à manger et qui étaient en train de fuir le centre de traitement. C'est faux et archi faux, parce que hier, par exemple, de 16h30 à 18h30, nous avons eu une conférence call en direct avec Lokolia, avec Boindé et Mbandaka, en collaboration avec les partenaires qui nous accompagnent, UNICEF, OMS, MONUSCO, le PAM, OCHA. Nous étions ensemble, les MSF. Donc, avec le centre de traitement qui est à Lokolia, un patient ne peut pas fuir, parce que les patients confirmés sont en isolement. Il y a une cuisine qui est rattachée au centre d'isolement. Donc, c'est une fausse information, c'est une fausse rumeur qu'il ne faut pas...
Mais quand vous comparez avec d'autres cas d'épidémie qui sont déjà déclenchés dans les pays, comment vous jugez l'évolution par rapport à ces dernières? C'est une vitesse exponentielle comme d'autres fois, ou bien on a réussi quand même à continuer par rapport à d'autres années?
Sur place, parce que moi je viens de là, la situation est plutôt stable. La situation est plutôt stable, mais nous restons sur notre défensive, parce que je vous ai dit que nous suivons 386 contacts. Ça veut dire une personne contact, c'est une personne qui a été en contact avec une personne, soit décédée d'Ebola, soit confirmée, soit un cas qui est décédé dans la communauté sans explication valable. Et c'est une personne qui est susceptible de développer l'épidémie, ou plutôt la maladie. Voilà pourquoi nous disons, c'est difficile de notre part de dire si le pic est derrière nous ou s'il est devant nous, parce qu'il suffit que sur ces personnes-là, contact que nous suivons, qui est 20-30 personnes qui fassent la maladie au même moment, c'est le pic et ça va nous secouer un peu, mais les dispositifs sont pris pour que vraiment nous puissions parer à toute situation. Mais sur terrain, la situation est très stable, la situation est maîtrisée, et je dirais même que c'est exceptionnel, parce que c'est la première fois que la riposte se fasse dans les 14 jours. Donc pour le moment, sur terrain, les équipes sont sur terrain en train de travailler, surtout avec les deux nouvelles approches que nous venions de mettre sur terrain, que nous avons lancées le jeudi dernier à Lokolia, l'approche village par village et l'approche pas une parcelle, pas un ménage sans désinfection.
Est-ce qu'on peut dire que ça, ce sont les acquis de plusieurs cas d'épidémie qui se sont déclenchés dans les pays aujourd'hui?
Effectivement, nous sommes en train de potentialiser certaines choses. Je vais donner l'exemple de l'appui psychosocial que nous sommes en train de donner aux populations au niveau de Lokolia. En fait, ça a été la spécificité de l'épidémie de Isiro, où la population s'est soulevée contre les Médecins Sans Frontières, parce qu'il y avait des informations qui circulaient selon lesquelles on était tellement enfermé dans l'isolement qu'on était en train de prendre les cœurs des gens, ainsi de suite. Donc, nous avons utilisé les psychothérapeutes, qui sont aujourd'hui les psychothérapeutes et les psychologues cliniciens, qui sont repartis dans les quatre aires de santé pour parler avec les personnes contacts, les familles affectées et même toute la population. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, nous avons toujours, par rapport à cette situation, nous avons le centre de traitement humanisé. Donc, le centre de traitement humanisé, nous l'avons conçu à Isiro quand nous avons vu que la population ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. Donc, il y a possibilité pour les personnes suspectes de parler avec elles à une certaine distance. Il y a possibilité pour quelqu'un d'être habillé pour aller parler avec son frère qui est un cas confirmé. Et il y a possibilité pour les enterrements humanisés de faire habiller un membre de la famille qui participe au rite funéraire et qui va participer à l'enterrement. Donc, nous avons capitalisé tout ce que nous avons pu apprendre prendre dans les cas antérieurs. Et j'ai entendu notre ami Papy qui est revenu sur le fait que il fallait potentialiser aussi ce qui s'est passé, les mesures prises dans les épidémies antérieures. Nous, nous avons capitalisé ça et nous avons même pris et on continue à envoyer le personnel qui a travaillé ça, à Estero et voilà. Dans les autres.
Ça, c'est du côté positif. Pouvons-nous dire aussi qu'il y a des faiblesses qu'il nous faudrait aujourd'hui améliorer?
Naturellement, les faiblesses ne peuvent pas manquer. Nous avons un défi. Le premier défi que nous avons, c'est que nous avons le centre de traitement qui est construit à Lokolia. Mais nous avons un défi, c'est Watikengo, qui est à 32 km. Et là, nous avons également des cas. Nous avons un isolement des cas, mais nous devons améliorer les conditions d'isolement à Watikengo. Et pour le moment, nous disons que nous devons transporter les patients de Watikengo vers Lokolia. Mais ça fait 32 km, il y a 12 ponts. Tous ces 12 ponts sont défectueux. Au moment où nous parlons, nous avons mis une équipe avec le chef de secteur, qui est un jeune très dynamique. On est en train de couper des arbres pour pouvoir mettre les madriers au niveau des rivières, afin que la Jeep ambulance puisse arriver à Watikengo. Mais dans l'entretemps, hier, nous nous sommes résolus de mettre des tipoy renversés. On met un tipoy renversé sur un vélo, et c'est là qu'on peut mettre le malade lorsqu'il est confirmé. Donc maintenant, on vient de prépositionner des motos à Watikengo pour faire des prélèvements chaque fois qu'il y a un cas suspect, de sorte que le laboratoire fasse le diagnostic et que le malade soit transportable avant qu'il entre dans une phase un peu plus grave de la maladie. Ça, c'est parmi les points négatifs ou les points à améliorer que nous avons, mais concernant beaucoup de choses, les points à améliorer, c'est peut-être aussi en ce qui concerne la gestion logistique. Je vous ai dit que c'est en pleine forêt et nos équipes sont vraiment en pleine forêt où on est en train de mettre un campement. On a mis un campement de fortune. Hier, j'étais content de voir que la MONUSCO qui a envoyé même des gens sur place et qui a vu comment nous sommes en train de travailler dans le partenariat. La MONUSCO va dans les tout prochains jours mettre un campement un peu plus classique et organisé pour nous accompagner.
On va revenir à vous parce qu'il faudrait aussi qu'on jette un coup d'œil par rapport à tous ces acquis, si ça a permis aujourd'hui à la RDC d'exporter son expérience ailleurs, vu le nombre de cas que nous avons connus. Mais on va aussi écouter les auditeurs, ce qu'ils pensent, leurs contributions, les questions qu'ils ont à poser. Maître Ekaniki, vous êtes à Bounia, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, aussi à l'invité.
Vous avez suivi les explications avec notre invité. Pour vous, la préoccupation se situe à quel niveau?
Merci, monsieur le journaliste, pour la parole que vous m'accordez. Je félicite d'abord le ministre pour les interventions qui sont en train de faire par rapport au virus hémorragique d'Ebola qui se vit aujourd'hui en province de l'Équateur. Mais nous sommes en train de suivre à travers les différentes chaînes de télévision, même les différentes radios, notamment la radio pratique, l'origine de cette maladie, ce sont les animaux sauvages. Mais une chose, monsieur le journaliste, aujourd'hui nous sommes bien sûr focalisés vers la province de l'Équateur parce que aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est la province qui est atteinte. Mais, monsieur le journaliste, par rapport à l'immensité de la forêt en République démocratique du Congo, et aujourd'hui, la grande population qui vit en brousse ou bien dans la campagne est en train de se nourrir de cette viande-là. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une émission de je suis allé défendre mon pied à combattre à 80 de Bounia. Je trouvais les chasseurs, notamment les livrets. Il y avait presque 10 à 11 gibiers entre leurs mains. Ils étaient en train de vendre ça. N'est-ce pas qu'il y a aussi une bombe à retardement? Alors, je voulais adresser ma question au ministre. Quelles sont les mesures qu'ils sont en train de prendre par rapport à d'autres provinces? Parce que, je ne sais pas, vous savez, monsieur le journaliste, un pigeon que vous trouvez avec les jésuites entre les mains, et que vous lui dites de jeter ça, alors que c'est ça sa vie quotidienne, de nourrir rien que de ces jubilés-là, pour peur, bien sûr, de ce virus de Ebola. Alors, Je vais vous le dire, de vous le raconter à vous, de vous le dire, c'est GST, c'est GST. Est-ce que vous allez vous attendre à ça?
Voilà, la question que vous posez, maintenant.
Alors, ma question est à ce niveau, monsieur le journaliste.
Oui. On a le dit pas
que. Les mécanismes.
Quels sont les mécanismes? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur le standard, oui.
Par rapport à la population d'autre province.
Merci beaucoup, maître Kaniki. Merci beaucoup, maître Kaniki. La préoccupation, elle est importante, parce que si on considère que l'origine de la maladie, ce sont les animaux, alors que beaucoup de gens vivent de l'environnement immédiat, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de ces animaux qui sont dans la forêt. Y a-t-il des mesures prises par rapport à la protection des autres populations qui vivent des forêts et des animaux? La question sera répondue par notre invité. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Bounia. Landry, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Landry.
Donc moi, je m'intéresse un peu au ministre pour la question du fait qu'avec cette histoire du Ebola, d'abord, parce que je crois que la RDC vient d'être secouée par les fièvres. Mais quelles sont les mesures préventives que le ministre a pris quand il s'est sorti du ministre de la Santé, qu'est-ce qu'il avait pris, qu'est-ce qu'il avait passé? De un, on veut savoir. Et de deux, je pose une question. La fièvre au Ebola a voulu secouer l'Afrique. Bon, ça commence de l'autre côté, ben, autre chose là. Et maintenant, on ne sait pas du tout, ça traverse vers notre fameux province qui est le facteur. Pourquoi cette hémorragie Ebola touche notre pays, si loin que l'autre pays soit affecté, infecté par l'Afrique.
Voilà, merci beaucoup, Landry. Vous avez voulu savoir quelles sont les mesures des préventions qui sont prises au niveau du ministère de la Santé, mais vous posez aussi la question de savoir s'il y a une corrélation entre le déclenchement de l'épidémie en Afrique de l'Ouest et la province de l'Équateur. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette épidémie-là, ça s'est déclenché là-bas? Y a-t-il de ramifications? On peut avoir des précisions avec notre invité. Nous retournons ici à Kinshasa. Dadi, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Dadi.
Oui, merci. Avant de former une quelconque demande, je m'en vais ici d'abord féliciter son excellence, monsieur le ministre, et voir qui c'est qu'il est en train de faire pour contenir cette maladie là où elle vit actuellement. Et la question qui est posée au ministre, son excellence, je ne sais pas quel est aujourd'hui les réservoirs de ces virus-là, parce que nous constatons que même les singes ou les animaux qui sont morts à forêt sont aussi constitués à quelque sorte comme des victimes, parce que s'ils étaient des réservoirs, et ils n'allaient pas mourir donc de cette maladie. Alors, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour que cette maladie ne soit pas arrivée soit à Mandaka et à Kinshasa, parce que dernièrement on avait suivi, d'ailleurs j'ai confirmé pour dire que c'était des fausses rumeurs, ce n'est pas des informations qui sont vérifiées, parce que les informations qui sont vérifiées, nous les suivons que auprès des ministères, il y a des attributions à la santé, donc si le ministre de la Santé, et je sais, si jamais il y a ces cas à Kinshasa ou bien à Mandaka, le ministre ne va pas tarder d'affirmer qu'ils vont prendre toutes les
précautions.
Et nous aussi, la population, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous ne savons pas là où vit cette maladie. Alors, c'est à nous de rendre d'abord le milieu propre là où nous vivons. Nous devons tout faire et puis informer les ministères ou bien une zone de santé la plus proche. Sinon, voilà, il y a quelqu'un qui souffre des maladies qu'on ne sait pas les origines ou qu'on ne sait pas détecter vraiment cette maladie qui s'agit de quoi. Je crois que de cette façon-là, nous allons arriver à arrêter cette maladie. Et,
merci beaucoup, Dadi. Oui.
Je demande au ministre, qu'est-ce qui fait pour que non seulement la population soit infectée, mais aussi les corps soignants ne soient pas aussi infectés. Qu'est-ce qui fait pour que les corps soignants ne soient pas aussi infectés de cette maladie? Merci beaucoup.
Merci, Dadi. Vous êtes à Kinshasa. Vous avez félicité le travail qui apprécié le travail fait par le ministre. Vous posez la question de savoir s'il y a un réservoir aujourd'hui, parce que les animaux eux-mêmes semblent être victimes de la maladie, et vous avez aussi sensibilisé la population par rapport aux mesures d'hygiène et à la vigilance, et vous vous inquiétez aussi du fait que les corps soignants sont victimes, sont contaminés et ils meurent de la maladie. Merci beaucoup. André, vous restez en ligne, le temps que notre invité puisse réagir. Je rappelle encore que nous faisons le point avec le ministre de la Santé sur la lutte contre le virus Ebola ici en RDC, mais aussi voir comment l'expérience de la RDC peut contribuer et profiter aussi à d'autres pays. 081 890 5315, le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, vous avez suivi la préoccupation de nos auditeurs. Maître Kaniki, lui, voudrait savoir s'il y a des mesures, hein, parce que les populations qui vivent aux côtés de ces forêts, ils vivent de ces forêts. Faudrait-il aujourd'hui les interdire de consommer les viandes? Y a-t-il des mesures alternatives par rapport à ça? Et aussi, pour savoir si on peut prévenir les déclenchements dans d'autres provinces. Landry de Lubumbashi, lui, voudrait savoir s'il y a une relation entre les épidémies qui sont déclenchées en Afrique de l'Ouest et à l'Équateur. Et Dadi de Kinshasa revient à la question du réservoir.
Merci beaucoup. À Maître Kaniki, je dis qu'il faut laisser les pygmées en province orientale avec la viande qu'ils ont. C'est très important. En fait, il n'y a qu'une décision qui a été prise pour l'interdiction de la chasse. Mm-hmm. Actuellement, c'est au niveau de la province de l'Équateur. Au niveau de la province de l'Équateur, pourquoi ? Parce que, en fait, avant une épidémie interhumaine, il y a toujours une épizootie. En fait, une épidémie chez les animaux. Mm-hmm. Et souvent, quand on fait des recherches avec le vétérinaire, on se rend compte qu'il y a une coexistence de l'épidémie chez les animaux avec l'épidémie chez les hommes pendant quelque temps au moment du déclenchement de l'épidémie. Donc, je ne peux pas confirmer ici que tous les singes que vous avez au niveau de la forêt ont Ebola, ce n'est pas vrai. Donc, mais nous avons pris cette décision temporaire parce que pour le moment, on a une épidémie à l'Équateur. Sinon, si vraiment tous les animaux dans la forêt, tous les singes ou les antilopes pouvaient avoir Ebola, nous avons eu la première épidémie en 76. Ça fait 38 ans maintenant, donc on devait avoir 3-4 épidémies chaque année. Mm-hmm. Donc il y a un phénomène que nous n'avons pas encore maîtrisé, comment ces animaux qui transmettent justement le virus à l'homme se contaminent également, et c'est par saison, et il y a beaucoup d'influences qui entrent en ligne de compte. Donc nous ne pouvons pas dire à la population des autres provinces de ne plus consommer la viande de gibier. Mm-hmm. Et je voudrais aussi rappeler que lorsque le virus d'Ebola vit dans le sang frais, donc c'est au contact entre ce sang et l'homme, et finalement l'homme va contaminer les autres hommes. Donc ça veut dire tout simplement que quand vous avez la viande boucanée, quand vous bouillissez correctement la viande fraîche qui vient de Kisangani ou qui vient du Bas-Congo ou je ne sais pas du Maniema, vous n'avez pas de problème parce qu'à ce moment-là vous aurez détruit le virus. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on interdit la chasse sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. J'ai dit dans mes interventions chaque fois que tant que la forêt subsistera, les maladies contagieuses qui viennent des animaux continueront. Donc nous devons plutôt aller sur la deuxième question qu'il a posée, qui est importante. Qu'est-ce que nous faisons pour protéger les autres provinces? En fait, ce que nous faisons pour protéger les autres provinces, c'est d'abord, un, la sensibilisation. Mm-hmm. Il y a un plan de contingence pour l'ensemble de la République. Toutes les provinces actuellement ont rehaussé leur seuil de surveillance, mais également de sensibilisation. Nous avons discuté longuement avec le gouverneur de la province orientale, par exemple. Donc, nous pensons que la sensibilisation est le maître mot. Parce que tant que la population ne se prend pas en charge, et le message que moi je peux donner pour les autres provinces où la chasse est permise, le message reste simple. Parce que même à l'Équateur, dès qu'on va maîtriser l'épidémie, on va laisser les gens commencer à reprendre justement la chasse. Mm-hmm. Il y a deux choses qu'on dit aux chasseurs. Vous trouvez un animal mort, ne le touchez pas. Vous trouvez un animal malade, tuez-le et laissez-le où il est. Il ne faut pas le prendre. Parce que justement, par rapport à la question, je voudrais rapidement mettre en relation avec la question de Dadi sur le réservoir. Oui. Effectivement, le singe, l'antilope, le porc-épic, les chauves-souris frigivores, tous ces animaux et parfois même le porc domestique, ils attrapent Ebola et il meurt. Donc ce ne sont pas des réservoirs. Les recherches continuent. Après plus de 30 ans, après la survenue de la première épidémie, on n'a pas encore su quel est le réservoir. Parce que le réservoir, c'est cet animal qui peut porter le virus Ebola et ne pas faire la maladie. Mm-hmm. C'est celui-là qui est le porteur sain, en fait, qui va porter cette maladie. La recherche continue. Mm-hmm. On n'a pas encore identifié cet animal. En ce qui concerne Landry, l'épidémie qui sévit en République démocratique du Congo est différente, totalement différente de celle qui s'est vu en Afrique de l'Ouest, quoique nous ayons la même souche, la souche Zaïre. Mais l'arbre phylogénétique est différent. Mm-hmm. Cela a été confirmé par l'INRB ici au niveau de Kinshasa, et ça a été confirmé également par le laboratoire de Franceville. Et l'INRB est parti même très loin à établir l'arbre phylogénétique du virus qui s'est vu actuellement à Djéra. Ce virus est pratiquement à 100% identique à celui qui avait sévi à Kikwit en 1995. Nous comprenons. Ce sont sont les mouvements des animaux. Les animaux sont développés, déplacés de Kikuit vers l'équateur, c'est la même forêt. Donc, et je l'ai dit dès le départ, vu la situation d'isolement, la situation d'isolement de Djera, il n'y a personne, Djera, il n'y a personne qui a eu un contact avec l'Afrique de l'Ouest. Et en ce qui concerne Dadi, je le remercie d'abord pour les félicitations. Le gouvernement est en train de déployer d'énormes efforts. Ce n'est pas toujours évident que les gens puissent nous féliciter pour le travail que le gouvernement est en train de faire. Ça nous flatte et ça nous encourage à pouvoir continuer ces efforts. Mais quelles sont les mesures prises pour protéger Kinshasa et Mbandaka? D'abord, la mise en quarantaine de Djera. Deuxièmement, le contrôle au niveau de la rivière Lomela. Troisièmement, le contrôle renforcé au niveau de l'aéroport de Boindé et le contrôle renforcé au niveau de l'aéroport de Mbandaka. Et un dispositif vient d'être mis sur pied à Ingende. À Ingende, parce que toutes les rivières qui viennent finalement de la Tchouapa et des autres endroits viennent par Ingende avant que ça n'arrive sur le fleuve. Donc nous avons mis un dispositif particulier à ce niveau-là et on a distribué également des thermomètres au niveau des différentes zones de ports et aéroports d'Équateur.
Mais vous avez insisté sur les moyens, je crois, au début du déclenchement de l'épidémie, vous avez lancé un appel auprès des ambassadeurs, des partenaires pour venir en appui au gouvernement afin de faire face à ces signes. Aujourd'hui, pouvons-nous dire qu'on a assez de moyens conséquents investis dans cette lutte et par rapport à la prise en charge de ces personnes? Les dispositifs tels que vous les décrivez, ils doivent être aux normes. Est-ce que ceux qui travaillent sur le terrain sont suffisamment pris en charge pour qu'ils soient vraiment à mesure de répondre aux besoins réels?
C'est parmi les raisons importantes de la réussite. Les conditions importantes de la réussite, c'est la motivation des ressources humaines. Je peux vous rassurer que tous ceux qui travaillent sur terrain sont motivés. D'abord, le gouvernement l'a fait de manière très spontanée, avant même qu'on commence le travail, et tous ceux qui sont là ont été motivés. Mais nous avons également la contribution de l'UNICEF et de l'OMS dans la motivation, notamment dans la sensibilisation et pour les épidémiologistes de terrain. Donc, je peux vous rassurer, sincèrement, que tout le personnel sur terrain est motivé, mais je rappelle que le personnel qui travaille à Djera, je le dis sur le plan logistique, nous avons encore des défis parce qu'ils dorment à même le sol, mais avec des mousses, bien sûr, que nous avons amenées, mais on a placé quelques tentes déjà qui sont arrivées, et le processus de la logistique est en train d'être relevé. La réunion d'hier a prouvé encore une fois avec les partenaires et le gouvernement que nous sommes ensemble, et je pense d'ici une semaine, tous les défis logistiques pourront être relevés.
Nous avons André à maintenant dans la province de l'Équateur, Niembo Akalima, mais il y a une préoccupation par rapport à la politique permanente dans ces genres de cas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la gestion d'Ebola s'inscrit dans des mesures conjoncturelles où nous avons une structure au niveau du ministère des Affaires étrangères dans un pendant, par exemple, qui s'occupe de la gestion de ces cas, ou sont aussi des formations permanentes pour avoir un personnel capable de répondre et agir directement quand une épidémie se déclenche?
Nous avons une direction, un département qui est chargé des fièvres hémorragiques. Et la fièvre hémorragique en RDC fait partie du système de surveillance. Donc, c'est parmi les 15 maladies à surveillance obligatoire hebdomadaire. Donc, chaque semaine, nous avons des données. Mais Ebola, c'est vrai, hier, on parlait de la fièvre hémorragique d'Ebola, mais aujourd'hui, on parle de la maladie à virus Ebola. Si hier, on pensait que c'est l'hémorragie qui était le signe clé, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'hémorragie n'apparaît que dans 30% de cas. Donc, ce qui est plus important, c'est la formation du personnel de santé pour la détection de cas. Aujourd'hui, les formations sont en train de se faire. D'abord, pour l'ensemble de la province de l'Équateur, les formations ont commencé, mais nous allons étendre également dans les différentes provinces où on est en train de former le personnel sur la détection des cas, mais surtout sur l'hygiène hospitalière. Parce qu'on se rend compte justement qu'Ebola, la première alerte, c'est la mort du personnel de santé. Mais finalement, les structures, c'est pas seulement en RDC. Si vous parcourez les 30 épidémies qu'a connues l'Afrique jusqu'à présent, vous allez vous rendre compte que l'hôpital est considéré comme un lieu d'amplification de l'épidémie. Tout simplement parce que les conditions hygiéniques ne sont pas respectées. Aujourd'hui, les formations sont en cours sur l'ensemble de la République par rapport à l'hygiène, aux précautions universelles d'hygiène hospitalière. Et bien sûr, également, il faut que le personnel soit capable, même là où on a des conditions très difficiles, savoir se laver les mains lorsqu'on va d'un patient à un autre en consultation.
081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. André et Nimbo, gardez la ligne, on va vous accorder la parole.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine, Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
André, vous êtes à Guéména dans la province de l'Équateur, bonjour. André, vous êtes avec nous, bonjour. André, on a des petits soucis de ligne hein, avec André qui est à Guéména. En attendant, nous allons à Kalima, au Maniema, Niembo. Vous êtes avec nous. Bonjour, Niembo.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à notre invité. Merci pour la parole que vous me donnez. Je remercie la radio Kapi, M. Pierrot, parce que si chez nous, à ce qui concerne la maladie d'Ebola, nous avons constaté cette maladie, mais elle est, donc cette maladie a attaqué surtout les bêtes, pour citer même les noms, la chèvre qui était attaquée vraiment à cette maladie. Mais pour ce qui est déjà les gens, les femmes, les enfants, les papas n'étaient pas atteints à cette maladie, mais j'ai entendu à d'autres provinces que cette maladie a fait des dommages. Mais pour ce qui est des conseils, vous avez dit comment faire maintenant pour lutter efficacement à cette maladie. Mon conseil est limite de conseiller les chers Congolais de pouvoir s'abstenir au mal parce que le mal est la cause de plusieurs choses. Je me souviens, souvent, on n'avait pas dire de beaucoup de choses de mal, par exemple des maladies. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans notre pays. Ce n'est pas seulement cette maladie d'Ebola, le travail, tout ça ne marche pas. La cause est que les gens se laissent plus au mal et au péché. Mais si les gens, donc les Congolais se diminuent au mal et au péché, toute chose pourra marcher.
Voilà, merci beaucoup, Niembo. Vous estimez vraiment que les sorts s'acharnent sur nous à cause de nos péchés, à cause du mal. Si les gens abandonnent le mal, la nature pourra être en harmonie avec eux. Mais quand vous avez évoqué tout à l'heure une maladie qui a décimé les chèvres, je crois bien, dans la province de Maniema, ça a été peut-être parlé aussi sur les antennes de Radio Okapi. Il y a d'autres maladies comme ça qui ont attaqué les chèvres, non, sûrement confirmé que c'était Ebola. C'est ça aussi l'importance de l'information qui peut passer quand il y a une maladie qui attaque des porcs, des chèvres, quelque part dans le milieu, pour que la police soit informée de quoi s'agit-il. Mais pour le reste, vous souhaitez que les gens abandonnent le mal, c'est comme ça la nature pourra vivre, être en harmonie avec Félix. Vous êtes à Kalemie, dans la province du Katanga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur de la radio Okapi. Je salue aussi mon homonyme, le docteur Félix Kabanguini. Moi, je vous appelle depuis le clinique universitaire de Kalemie.
Oui,
alors, j'aimerais juste donner mon point de vue par rapport à cette septième épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Mais d'abord, nous devons féliciter les efforts de notre gouvernement, mais aussi du Dr Félix, par rapport à la mobilisation des ressources humaines et tout ce qui est fait pour répondre à cette maladie. Mais ce qui est par rapport à mon inquiétude sur le plan de la réponse organisée, mais je constate que pour le pays et particulièrement pour mon district de Tanganyika, il y a une faible mobilisation, ça signifie qu'il n'y a rien qui s'organise sur le plan sensibilisation et communication communautaire. Ça signifie justement rien n'est fait sur le plan information et communication de la population. Alors ce n'est pas bien par rapport à cette situation. Il fallait que le ministère organise déjà à tous les niveaux, à tous les districts et toutes les zones de santé. Et le message passe, mais si chez moi ça ne se fait pas, ça c'est un point négatif. Mais aussi sur le plan évolution de la maladie. La maladie est apparue en RDC depuis 1977, mais sur le plan thérapeutique, je constate qu'il n'y a rien qui avance. Alors le ministre, lui, il est là sur le plateau, il pourra me dire qu'est-ce qui est fait sur le plan traitement depuis que la maladie a apparu sur la planète en RDC. Qu'est-ce qui est planifié?
Il n'y a pas de médicaments.
Il y a peut-être pour le West Africain,
Allô?
Oui, oui, vous voulez savoir s'il y a eu aussi une évolution sur le plan thérapeutique hein, par rapport au traitement, s'il faut utiliser les termes qui permettent
à oui, alors que nous devons être en vie pour développer plus de stratégies thérapeutiques
par rapport à d'autres pays. Voilà,
nous constatons quand même d'autres pays là où il y a quand même des efforts
qui sont fournis.
Merci. La dernière question pour donner la parole à nos collègues. Demande au ministre qu'est-ce qui peut être prévu en termes d'action durable pour éradiquer cette maladie en RDC.
Merci beaucoup, Félix Décalémy. Monsieur le ministre, vous avez suivi notre ami Nimbo, il a dit au-delà de tout, il faudrait que les gens aient aussi cette considération de faire du bien pour éviter que les épidémies se déclenchent. Félix, lui, il pose d'abord un problème, c'est le déficit de sensibilisation là où il vit dans le district de Tanganyika, et on n'en parle pas assez. Alors il voudrait savoir s'il y a une évolution sur le plan thérapeutique. C'est là où ça va me conduire à la question en ce qui concerne le traitement aujourd'hui. C'est quoi? Est-ce qu'il y a aussi des actions durables qui sont prises pour la prochaine? Et je vais associer à cette question le problème du vaccin qui a fait couler beaucoup d'encre entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que la RDC peut aussi en bénéficier dans le cadre du traitement?
Merci beaucoup. André, ce n'est mot, je pense, de Kalima qui nous a amené pratiquement sur un terrain spirituel. C'est vrai qu'en tant que chrétien, je sais que le salaire du péché, c'est la mort. Et que la parole de Dieu déclare aussi que si vous êtes en harmonie avec votre Dieu, la maladie ne vous atteindra pas. Mais malheureusement, nul n'est parfait sur cette terre et on continuera à vivre dans le péché. Et depuis que Adam et Ève ont péché, le malheur nous accompagne. Mais c'est important, l'amour du prochain et la solidarité entre les hommes, la charité, ce sont des vertus que nous devons cultiver. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que sur le plan scientifique, nous redescendons sur terre pour dire que la maladie, c'est une zoonose qui est transmise aux hommes. Donc, nous devons éviter justement le contact avec des animaux malades. Pour ce qui concerne les chèvres, c'est important qu'il y ait des alertes par rapport aux épizooties, donc des épidémies chez les animaux. Et comme il vient de signaler, je pense qu'il est de Kalima, nous allons signaler au service vétérinaire de pouvoir investiguer. En fait, toute épidémie qui survient chez les animaux ne signifie pas que c'est Ebola. Mais nous avons la responsabilité de pouvoir investiguer très rapidement et de savoir cette épidémie est liée à quoi, afin qu'on contrôle la population et qu'il y ait des interventions quant à ce. En ce qui concerne Félix, oui, il a félicité le gouvernement, je vous remercie également pour ces félicitations. La faible mobilisation au Tanganyika sur Ebola, c'est vrai, nous avons lancé un appel sur l'ensemble du pays. C'est vrai qu'il y a certains déficits liés à un déficit de leadership au niveau local. Donc là, nous demandons au personnel de santé au niveau du Tanganyika de pouvoir passer l'information. C'est la moindre des choses, passer l'information, parce qu'il y a déjà une épidémie qui sévit au niveau de Djerra et nous avons une épidémie qui menace l'ensemble de la République, et c'est cette épidémie qui est en Afrique de l'Ouest. Nous avons validé les documents de sensibilisation. Nous pensons, et je vais donner une instruction, pour qu'on fasse parvenir ces documents de sensibilisation dans toutes les zones de santé, afin que dans chaque zone de santé, on trouve les messages liés à Ebola. Donc, je prends bonne note. En ce qui concerne l'évolution, depuis 1976, maintenant le traitement, qu'est-ce qui se fait? C'est vrai qu'entre 1976 et 2012, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur le plan thérapeutique. Mais avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, on a accéléré la recherche. Aujourd'hui, il y a à peu près 8 molécules dans 8 traitements et 2 vaccins qui sont en essai actuellement. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, déjà, il y aura un certain nombre de choses qui vont évoluer. Vous avez le Zimab, par exemple, avec les Américains qui ont expérimenté, c'était déjà expérimenté chez les animaux, mais on n'avait pas encore commencé les essais cliniques chez les humains. Mais on a permis à ce que le Zimab puisse commencer. Vous avez le JK-5, par exemple, avec les Chinois. Donc vous avez comme ça une série de molécules, les Japonais, les Russes ont annoncé des molécules et ces molécules sont en train d'être testées et nous pensons que dans un proche avenir il y aura quand même un changement. Je voudrais quand même rappeler que par rapport aux Zimab qui est un sérum, la RDC, nous l'avions dit en 1995, déjà ça avait commencé avec 76, mais en 95 le professeur Muyembe a même documenté, ça a été publié, on a commencé avec le sérum, on a soigné 8 personnes avec le sérum des convalescents.
convalescent avec ses anticorps polyclonaux, on en a guéri 7 sur 8. Je suis heureux de vous annoncer, je ne cessais de le clamer tous ces jours, mais la réunion sur la vaccination et les médicaments contre Ebola qui a eu lieu le 4 et le 5 à Genève vient de prendre cette, en citant la RDC en référence, on vient d'autoriser de faire les transfusions de sérum. Ça, c'est une décision que l'OMS vient de prendre et nous, nous l'avions déjà décidé il y a 2 semaines avec les scientifiques. Nous avions dit, si le taux de létalité, donc le nombre de cas de mort, le taux de mortalité est élevé à Djerra, nous avions déjà décidé de commencer à préparer le placement frais congelé pour les transfusions. Donc ça vient d'être accepté et ça c'est l'expérience de la République démocratique du Congo.
Mm-hmm. Est-ce que le vaccin va aussi profiter, celui qui est venu des États-Unis d'Amérique par rapport à la RDC?
Nous avons demandé, nous avons adressé une demande pour 150 doses de Zimab, mais je sais que c'est très difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que d'ici la fin de l'année, on pourra avoir un peu plus de vaccins, mais nous avons déjà adressé la demande.
Mais avant peut-être d'évoquer la question des actions pour, dans l'avenir, mais il y avait un volet que le gouvernement avait annoncé par rapport aux fonds nécessaires pour accélérer les recherches autour de ça. Où en sommes-nous aujourd'hui?
Effectivement, là, nous sommes en pleine épidémie. Vous comprenez que pour le moment, nous nous focalisons sur l'épidémie, mais le plan est en train d'être élaboré pour un laboratoire P3. C'est un plan qui existe déjà, mais qui sera financé très rapidement par le gouvernement pour transformer l'INRD en un laboratoire P3. On va rehausser le niveau de sécurité pour permettre à ce que les chercheurs puissent travailler sur le virus.
Mais on pourra revenir sur les actions durables, hein, parce que ça sera vers la conclusion. Mais permettez aussi que nous puissions écouter Madame Eve Bazaïba. Vous êtes sénatrice, membre de la commission socio-culturelle, je crois bien, au Sénat. Vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et vous, du côté politique, quelle est votre part des responsabilités dans la lutte contre cette épidémie, vous qui siégez au Parlement?
Ok, merci beaucoup. Vous me demandez ma part des responsabilités, mais il faut faire savoir aux auditeurs que c'est moi qui ai appelé parce que j'ai suivi et cette émission m'intéresse, même si je l'ai pris des cours. Notre part des responsabilités en tant que politique, c'est pourquoi j'interviens. Je suis maintenant à l'Assemblée nationale. Je me suis plus au Sénat, présidente aussi de la commission socioculturelle et la question de la santé y est concernée, donc ceci me concerne. Je voudrais d'abord commencer par continuer à féliciter le ministre qui est venu au cours d'une activité nous donner l'information réelle sur terrain à l'Assemblée nationale. Et nous, comme politique, nous sommes très impliqués dans le volet sensibilisation. Mm-hmm. Je sais que j'ai pris mission des cours, mais c'est la question que j'allais poser. Où est-ce que nous, parlementaires, nous pouvons obtenir les documents ou les affiches, je ne sais pas quoi, des sensibilisations ou d'autres supports pour que nous puissions envoyer sur terrain? Personnellement, nous utilisons déjà nos radios communautaires et c'est aussi l'occasion de demander à ce que la radio Okapi puisse permettre de nous remettre cette émission en support, le support audio pour que nous envoyions dans nos radios communautaires, parce que là nous sommes en face d'une personne experte et d'une personne qui est là, qui gère au quotidien cette situation-là du virus Ebola. Et en dernier lieu, j'avais dit, si jamais nous avons des cas suspects ici à Kinshasa, mm-hmm. où est-ce que nous pouvons orienter ces cas-là pour que ça soit pris en charge rapidement et que nous ne puissions pas connaître des problèmes que nos compatriotes sont assez de connaître actuellement à Djerra?
Merci beaucoup, Madame Evazeri. Je rappelle que vous êtes députée nationale. Hein. Excusez-nous pour vous avoir donné une autre fonction. Merci de nous avoir appelé. C'est important. Vous souhaitez qu'au niveau de la Radio Capi, si vous pouvez avoir cette émission pour l'affaire du bien sûr les radios, vos radios communautaires, cette demande peut être formulée bien sûr au niveau de la direction de la radio, mais le ministre pourra vous répondre par rapport à l'accès à l'information. Où est-ce que les députés peuvent avoir le support de sensibilisation, mais aussi s'il y a des cas suspects à Kinshasa, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en attendant, on écoute Rodrigue qui est en Mandaka. On va revenir à vous, monsieur le ministre. Rodrigue, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Pierrot.
On vous écoute, quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation c'est celle-ci. Je voulais justement demander au docteur que pour éviter la maladie Ebola, là, il faut laver les mains avec l'eau purifiée justement. Et pourquoi avoir seulement les telles maladies? Parce que si je me souviens, l'année passée, on était seulement avec les maladies choléra comme ça. Les gens disent souvent seulement qu'il faut très bien laver les mains avec l'eau purifiée et le savon médical. Pourquoi avoir?
Vous dites, mais bon, qu'est-ce qu'il faut enfin, on sait laver les mains pour le choléra, mais alors il y a aussi Ebola. C'est quelle eau qu'il faut utiliser pour se laver les mains pour que ces maladies reviennent? Merci beaucoup. On écoute Bouchiri qui est à Kindu. Bouchiri, bonjour.
Bonjour, bonjour, la radio Capim.
On vous écoute, monsieur.
Je veux commencer d'abord à remercier l'éternel Dieu qui nous a donné et le pouvoir d'intervenir aujourd'hui à la radio au Capi.
Mm-hmm.
Je félicite encore les meilleures félicitations au ministre national de la Santé, le docteur Félix Kabanginoumbi, de tout ce qu'il fait. Il se donne corps et âme, il fait vraiment la volonté donc d'arriver même jusque-là que la maladie est affectée par les gens.
Mm-hmm.
Alors, ici chez nous, au Manema, comme je vous appelle, on a un grand parc nouvellement créé qui s'appelle le parc national de la Lomami. Ce parc a été arrêté assez longtemps. Et nous sommes en train de remercier Dieu puisque c'est de lui qui nous a donné cette opportunité de ne pas être contaminé avec cette maladie.
Oui, Bouchiri, si vous n'arrêtez pas votre concepteur, Bouchiri, vous allez nous suivre avec beaucoup de retard. Si vous pouvez arrêter la radio à côté de vous et continuer. Oui, arrêtez d'abord la radio à côté de vous et continuez à intervenir, Bouchiri.
Oui, c'est cher, monsieur le journaliste.
Ok, allez-y rapidement pour permettre à l'invité de pouvoir répondre. Oui.
Alors, il n'y a aucune sensibilisation pour que la population sache que au moment que nous sommes, il y a une maladie qui arrive dans notre République démocratique du Congo. Dans la province du Maniema, il n'y a pas aucune sensibilisation. Sauf que j'avais suivi à la radio et les gens de Caire International à une réunion. On a fait seulement entrer cette parole en disant il y a une maladie à l'Équateur, la maladie communément appelée Ebola.
Il y a aussi. Mais il n'y a pas d'action.
Les vaches qui arrivent au nord et on nous amène des vaches ici. Je ne sais pas si les gens des vétérinaires contrôlent ces vaches qui sont contaminées.
Voilà,
avec quelle maladie?
Merci beaucoup Bouchiri. Vous dites qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui par rapport au mouvement de bêtes aussi entre le Nord Kivu, le Maniema, mais il n'y a pas assez de sensibilisation par rapport à la maladie elle-même, alors que vous vivez à côté d'un parc nouvellement créé. Merci beaucoup. On revient à vous, docteur Félix Kabandier. Vous avez suivi les uns et les autres, Madame Vazaïba, qui est revenue sur l'accès à l'information. Les députés, où peuvent-ils avoir les supports nécessaires pour la sensibilisation? S'il y a un cas à Kinshasa, où est-ce qu'on doit se référer? Et les deux autres auditeurs.
Je remercie d'abord l'honorable Eve Bazaïba qui a toujours été très attentive aux problèmes de santé. Nous sommes souvent en contact avec la commission socioculturelle du Parlement et elle est toujours présente quand il y a des questions d'épidémie, des questions liées à la santé de la mère, de l'enfant, toutes les questions de santé, elle est toujours présente. Honorable, par rapport à l'endroit où on peut trouver les affiches, c'est au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé, vous pouvez avoir tous les supports pour que vous puissiez répercuter le message. Je voudrais me joindre à votre sollicitation, à votre demande à Radio Capi de pouvoir disponibiliser les supports pour que vous puissiez relayer le message dans les radios communautaires. Et d'ailleurs, hier, nous étions en conférence call, nous avons même dit par rapport, il y a deux radios, par exemple, à Boindé, qui ont une portée d'à peu près 100 km. Nous avons dit que nous devons soutenir ces radios et créer des clubs d'écoute dans les différents villages et leur donner des radios à manivelle afin que les gens puissent suivre le message directement par la radio. En ce qui concerne les cas suspects à Kinshasa, il y a à peu près 6-7 hôpitaux qui sont préparés, notamment vous avez l'hôpital général de référence ici en ville, vous avez Samka, vous avez l'hôpital Biamba Marie Mutombo, vous avez l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, vous avez l'hôpital de Kinkole, l'hôpital de Kinkole qui aujourd'hui est érigé presque comme un hôpital principal au cas où nous avons des cas d'importation de l'Afrique de l'Ouest.
Mm-hmm.
Même un centre de traitement est en train d'être érigé justement. Mais n'oubliez pas, pour tous ceux qui nous suivent, qui n'oublient pas qu'il y a deux numéros verts. D'ailleurs, il y a un troisième qui sera communiqué dans les prochaines heures. Le premier numéro vert, c'est le 0-99 encore, 71-005, c'est-à-dire 0-99. 99-71-005 et le deuxième numéro c'est 081-080
0020 081 080 20. Donc, en dehors de parole aux auditeurs, donc vous pouvez continuer à appeler sur ces numéros. Vous aurez des spécialistes qui peuvent répondre aux différentes questions que vous avez. En ce qui concerne ce rubrique, oui, se laver les mains, l'eau pure ou l'eau purifiée, c'est peut-être l'eau où il y a le chlore, mais tout le monde n'a pas le chlore. Vous pouvez utiliser n'importe quelle eau, mais vous lavez avec du savon. Et si vous n'avez pas de savon, vous pouvez vous laver avec de la cendre. Donc, ça désinfecte et ça protège suffisamment contre toutes les maladies contagieuses en dehors même d'Ebola. En ce qui concerne M. Bouchiri à Kindou, merci pour les félicitations au gouvernement. Je pense que ça se recoupe avec la question qui a été posée par notre ami, je crois, c'est Félix Akalimou, sur la sensibilisation. Je prends bonne note et je vais demander à mes services de relayer, parce qu'il faut que ce message soit relayé dans toutes les zones de santé et dans toutes les provinces. Nous allons écrire encore aux provinces pour que les provinces vraiment puissent se protéger. La menace d'un cas venant de l'Afrique de l'Ouest est permanente. Bien que nous avons fait tous les efforts pour dire nous sommes en train de contenir, mais l'épidémie en Afrique de l'Ouest va persister au-delà de la fin de l'épidémie de Djera. Donc, nous devons continuer. Et concernant les animaux, je le dis, les vaches, jusqu'à présent, ils ne sont pas parmi les animaux. Si les vaches, ce sont des herbivores. En fait, ils ne sont pas souvent très contaminés, mais ce qui est important, c'est que tout mouvement des animaux doit être contrôlé et les vétérinaires doivent faire leur travail.
On va suivre le flash information et pour vous permettre de conclure l'émission, mais en attendant, est-ce que la question de la lutte contre Ebola, on peut en discuter, en parler dans 40 secondes, est-ce une question seulement du ministère de la Santé où il y a une structure transversale?
Non, c'est une question qui est multisectorielle et multidisciplinaire. Au-delà du ministère de la Santé, vous avez le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, vous avez le ministère de l'Intérieur qui d'ailleurs joue un rôle très important dans cette crise, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Médias, le ministère du Genre, donc le ministère des Transports, n'oubliez pas. Donc finalement, c'est une question très transversale. Ce matin, nous étions avec les transporteurs aériens à mon bureau avant que je ne vienne ici. Nous étions en train de discuter du transport des personnels, du transport des échantillons et même de la sécurisation des aéronefs qui sont en train d'atterrir sur nos aéroports.
Voilà, on va revenir à vous, le temps d'écouter le flash information de Radio Capi. Je rappelle à nos auditeurs que la lutte contre Ebola est au centre de notre échange. 081 890 5340, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Et nous recevons pour vous dans ce studio le ministre de la Santé, Dr Félix Kabangé. On va écouter les flèches d'information du Radio Papi et on se retrouve tout juste après.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 5315 ou par internet pa@radiocapi.com. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons pour cette dernière partie des paroles aux auditeurs consacrées bien sûr à la lutte contre Ebola, en RDC. Credo, vous êtes à Isiro, en province orientale, maître Gaston, ici à Kinshasa. Credo, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour l'invité. Je commence par un petit rectificatif. Je ne suis pas Credo, je suis plutôt Claude Moussa, depuis la ville du jour.
On vous écoute, Credo.
Ce n'est pas Credo, je vous en prie, c'est Claude.
Ah, c'est Claude, Claude. Ah, oui, merci beaucoup pour la précision. Oui, on vous écoute, Claude, oui.
Merci Pierrot. Ce que le prédécesseur aujourd'hui, cette pandémie avait déjà fait rage dans la cité du jour où je suis intervenu. Mais je pense que c'était toujours avec le ministre qui est l'invité, M. Félix, qui est dans votre plateau. Je pense plus que ce qui sera, il fallait mettre en œuvre pour lutter ou combattre cette pandémie de ces hémorragiques de Ebola. Serait plutôt, comme les autres l'avaient déjà dit, de sensibiliser la population, tenir plus compte de mesures d'hygiène, se laver les mains. Lorsqu'on est au réveil d'une promenade, avant de manger, après avoir fait ses besoins, il faut se laver les mains. Ce que je voulais aussi ajouter, disponibiliser au moins dans chaque zone de santé un expert ou des experts avec un laboratoire de diagnostic. Puisque ce qui arrive souvent hier est que s'il y a un cas suspecté, on met beaucoup de temps, on est allé analyser l'examen et le cas qui se coule là, les gens se contaminent. Le cas puisque le résultat n'est pas encore revenu. Aussi, je voulais aussi ajouter au ministre, est-ce qu'il serait possible aussi qu'ils impliquent le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, car c'est lui vraiment qui a le regard tourné vers les indigènes aussi.
Merci beaucoup, Claude. Vous avez sensibilisé la population par rapport aux mesures d'hygiène, mais vous estimez qu'il serait mieux de disponibiliser, n'est-ce pas, dans les zones de santé, les experts, les laboratoires, parce que les temps qui s'écoulent entre l'identification, les examens qui doivent être envoyés par exemple à Kinshasa, vous avez peur que la personne puisse contaminer d'autres personnes. Et vous souhaitez aussi l'implication du ministère des Affaires sociales dans la lutte contre cette épidémie. Merci beaucoup, Claude. On retourne ici à Kinshasa. Maître Gaston, bonjour.
Merci.
On vous écoute, maître.
Disons que vraiment, Pierrot, ce n'est pas un honneur d'être cité parmi les pays qui sont concernés par la situation de cette maladie. Ce n'est pas un honneur. D'abord, bien qu'on localise ça dans une partie de notre pays, mais sur le plan international, c'est notre pays qui est concerné. Et vous savez qu'il y a même des États qui se considèrent, qui remplissent les conditions d'une bonne vie, qui ont eu à réussir à écarter tout danger, entre autres, bon, je ne sais pas citer ici, mais qui dit déjà qu'il faut écarter, qu'il faut mettre en quarantaine ces pays-là qui sont concernés. Alors, les nôtres étant concernés, ce n'est pas d'abord un honneur, il ne faut pas vraiment en glorifier. Et puis, quand vous dites que notre pays servira d'exemple par rapport à d'autres, je pense que c'est notre pays qui est le premier, par rapport à cette maladie, et que vous demandez à ce que les exemples qui ont eu à ce qu'on puisse combattre cette maladie puissent peuvent servir d'exemple à d'autres pays qui sont concernés actuellement. Mais ça, à mon avis, vous là, vous savez que non, cette maladie qu'on veut politiser, à mon avis, qui fait l'objet des médias actuellement, ça n'a pas commencé dans notre pays. n'est pas grave plus que la guerre. Mais pourquoi en faire si réellement cette maladie existe?
Oui, maître Gaston, peut-être pour avoir plus de précisions, maître Gaston, pour avoir plus de précisions, je ne crois pas que qu'on dise qu'on s'est glorifié parce qu'il y a le Ebola chez nous, mais c'est plutôt notre préoccupation de se les avoir, parce qu'il y a eu déjà autant de cas d'épidémie chez nous. Si nous pouvons servir d'expérience aux autres pays, si l'expertise congolaise peut aussi aider, par exemple, la Sierra Leone, peut aider le Libéria, peut aider la Guinée et d'autres pays, notamment le médecin que nous avons, les infirmiers, ceux qui ont déjà travaillé, n'est-ce pas, sur cette épidémie, qui peuvent servir d'autres pays. Je crois que c'est dans cette perspective-là que nous posons notre question. Alors, loin de nous, l'idée de pouvoir politiser le débat autour d'Ebola, mais quand il y a une maladie qui tue 35 personnes, je me demande ce que nous devons faire, si nous ne devons pas vraiment en parler. Maître Gaston, merci de nous avoir appelé de Kinshasa. On va écouter les derniers auditeurs de cette émission, c'est Edgar, qui est à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour, Edgar.
Bonjour Pierrot, merci pour la parole.
On vous écoute, Edgar.
Merci beaucoup. Voilà, comme vous l'avez dit au début, là, c'est la septième fois que notre pays fait face à cette épidémie. Donc, nous sommes censés être parmi les pays les plus expérimentés en matière de lutte contre l'Ebola. Et les statistiques de ces dernières épidémies que le pays a connues le démontrent bien. Mais mon inquiétude, Pierrot, contrairement au président de l'épidémie, je crois que celle de cette fois-ci, la lutte n'a pas bien commencé, Pierrot. Parce que d'abord, l'épidémie a été confirmée, a été en retard, alors que c'est une épidémie à déclaration obligatoire, comme M. le ministre l'avait dit. Il y avait déjà l'épidémie a été confirmée. Et si vous regardez bien, au Sénégal, l'épidémie a été déclarée avec un seul cas seulement. Donc chez nous, le système de surveillance épidémiologique, ça n'a pas bien fonctionné. Pendant plusieurs jours, on ne parlait d'une maladie inconnue, alors que les plans de contingence étaient déjà réactivés lorsque cette épidémie a commencé en Afrique de l'Ouest. Mais nous saluons quand même les efforts que le ministère de la Santé a fait avec ses partenaires sont en train vraiment de déployer pour le moment. Mais la lutte contre Ebola doit être une question transversale, comme vous l'avez dit. Et autre préoccupation que je voulais soumettre au ministre en rapport avec la rentrée scolaire qui est prévue la semaine prochaine à Tira. Tenant compte de la prévalence, monsieur le ministre, vraiment, je pense qu'il est nécessaire de surseoir d'abord cette rentrée ou bien y aller de façon progressive, c'est-à-dire commencer par les écoles secondaires, parce que là, les enfants sont vraiment suffisamment mûrs pour observer les mesures d'hygiène et puis voir c'est là la situation sur le terrain où vivent ensuite les écoles primaires et maternelles. Parce que la promotion de collective chez les enfants est vraiment défectueuse. Et ça fait vraiment permettre la propagation de l'épidémie. Mais pour terminer, Pierrot,
allez-y,
il faut vraiment une bonne éducation de la population pour renforcer les attitudes et les comportements favorables à la santé. Par exemple, Pierrot, parce qu'on parle de lavage des mains, nous ici, vraiment, dans nos communautés, quand on parle de lavage des mains, on lave les mains dans un seul seau, tout le monde se lave les mains. Alors, parce qu'on a lavé les mains, donc il faut parler à la population que le lavage hygiénique des mains, les mains doivent être lavées vraiment dans l'eau qui coule pour éviter la contamination des maladies dans la famille. Merci beaucoup, Pierre.
Merci beaucoup, Edgar. Hein. Merci à tous les auditeurs. C'est important ce que vous avez dit. Vous estimez qu'on a répondu en retard alors qu'on parlait d'une maladie inconnue. Il fallait, comme c'est une maladie à surveillance obligatoire, on devrait avoir une réponse prompte. Merci. Et pour aussi la sensibilisation et la question de la rentrée scolaire à dire. On revient à vous, monsieur le ministre. Vous avez suivi les élèves. On est à la fin. Il y a Maître Gaston qui a évoqué ce que je disais tout à l'heure. Si il y a l'Afrique de l'Ouest a bénéficié de l'apport de l'expérience de la RDC dans la lutte contre cette épidémie et aussi les préoccupations de notre ami qui est à Kananga et Echo de Dissiro.
Merci beaucoup. En ce qui concerne Claude, les mesures de sensibilisation, je suis tout à fait d'accord avec lui. Disponibiliser les experts dans les zones de santé, les laboratoires. Le laboratoire pour diagnostiquer Ebola est très complexe, donc on ne peut pas en mettre dans chaque zone de santé. Mais nous avons un système de surveillance et de collecte des échantillons qui nous permet de pouvoir, dans les 48-72 heures, pouvoir donner le diagnostic. Mais ce qui est important, nous sommes en train de renforcer les équipes de riposte au niveau de chaque district médical. Ça, c'est très important. Impliquer le ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales est impliqué. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a 4 experts du ministère des Affaires sociales qui vont se rendre à Djerra parce que nous comptons d'ici la fin de la semaine, en collaboration avec nos partenaires tels que le PAM et le gouvernement, bien sûr. Nous allons, dès la semaine prochaine, commencer la distribution des vivres. Au niveau du secteur de Djerra, vous savez, le secteur est en quarantaine, donc il faut des suppléments en aliments et en non-vivres au niveau de ce secteur. En ce qui concerne Gaston, j'aimerais rappeler, heureusement que vous lui avez déjà dit, nous ne politisons pas, et je l'ai dit chaque fois qu'on m'a posé la question, si notre riposte est un succès. J'ai dit, ça ne pourra jamais être un succès tant qu'il y a eu déjà des morts. Donc nous faisons des efforts, mais tant qu'il y a des morts, c'est déplorable. Ce sera un succès le jour où nous déclarerons une épidémie avec autant de cas et sans décès. À ce moment-là, je dirais que ça aura été un succès. Et nous avons aidé justement les pays. La Guinée, si la Guinée, qui était l'épicentre de l'épidémie, a pu contenir l'épidémie, mais c'est grâce à Dr Kebela et les épidémiologistes de la RDC, le Dr Kebela qui est le directeur de la direction de lutte contre la maladie. C'est lui qui a été à Gekedou pendant les 2 premiers mois après que l'épidémie ait commencé à faire ravage. C'est lui qui actuellement est à Djerra, c'est lui qui coordonne l'équipe de coordination scientifique et technique au niveau international et c'est lui qui coordonne la réponse à ce niveau-là. En ce qui concerne Edgar à Kananga, contrairement aux épidémies, c'est juste le contraire, monsieur Edgar. C'est l'épidémie qui a été déclarée dans la durée la plus brève possible. Parce que, en 76, il a fallu attendre 5 mois. L'épidémie avait commencé au mois de janvier, c'est au mois de juin que l'épidémie avait été déclarée. En 77, c'est la même chose. À Kananga, ou plutôt à Mweka, c'était la même chose. C'était 3-4 mois. À Isiro, 3 mois, mais cette fois-ci, c'est 14 jours. Donc, c'est le délai le plus bref qu'on ait connu. Et pour ce qui concerne la rentrée scolaire, je l'ai dit encore dans une des émissions ici, la rentrée scolaire aura lieu le lundi prochain pour tout le monde. On a déjà fait la formation des formateurs des enseignants. À partir d'aujourd'hui, les enseignants vont former les autres enseignants. Nous l'avons expérimenté à Isiro. Au moment de la rentrée scolaire, d'ailleurs, il y a des kits hygiéniques qui seront placés au niveau de chaque école dans le secteur de Djerra pour apprendre aux enfants à se laver les mains. Et les enseignants vont donner la matière aux enfants à Isiro. On n'a jamais eu une grande sensibilisation que le lendemain de la rentrée scolaire, quand tous les enfants sont rentrés dans leur ménage, dans leur famille, pour apprendre aux parents comment il faut se laver.
Mais en 40 secondes pour conclure cette émission, on a écouté les uns et les autres. Est-ce qu'on peut garder un message d'espoir par rapport à la population suite à tout ce que nous avons échangé avec eux?
La première chose, je dis qu'il n'y a pas Ebola à Kinshasa, il n'y a pas Ebola en Mbandaka. L'épidémie est contenue dans le territoire de Boyé. La deuxième chose,
Personnellement, en tant que ministre de la Santé, je suis très fier de voir comment le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, est en train lui-même de conduire les opérations. Il n'y a rien que je fais sans qu'il ne soit intéressé et la plupart d'instructions sur ce que nous sommes en train de faire, ça vient de lui-même et il suit la situation de terrain.
Merci beaucoup, Dr. Félix Kabange. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le ministre de la Santé. Merci votre disponibilité pour discuter avec nos auditeurs autour de cette émission. Parole aux auditeurs, Quentin, sur cette note. On se retrouve demain à 11h, 30 minutes heure de Kinshasa. Nous disons merci à Alain Goy qui a assuré la mise en monde. Julie César était à la réalisation. Pierrot et la Mégie vous a présenté cette émission sous la supervision de Ben Kabamba. Vous allez la retrouver sur www.radiocapi.net. Merci. Au revoir à tous.